grand angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, votre grand angle hebdo, l'actualité de ces 7 derniers jours, le sommaire. Le soulagement et l'attente après la sortie de prison des Français Cécile Kohler et Jacques Paris. Ils étaient détenus depuis 3 ans et demi en Iran. Le couple d'enseignants est hébergé à l'ambassade de France à Téhéran en attendant de pouvoir rentrer en France. Le député Éric Botorel n'a pas cessé d'agir depuis leur incarcération, vous l'entendrez. Le nouveau visage de New York s'appelle Zohran Mamdani. Le démocrate va devenir le maire de la plus grande ville des États-Unis. Une victoire qui a un écho dans le monde entier, comme le soulignera Jean-Éric Brana, docteur de la Sorbonne en études américaines, spécialiste des États-Unis. Le roi du Maroc a instauré une fête nationale le 31 octobre après le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Un vote à l'initiative des États-Unis en charge de ce dossier au Conseil. Nous y reviendrons avec Emmanuel Dupuis, spécialiste de ce dossier. Le Premier ministre dit vouloir renégocier au plus vite l'accord de 1968 sur la circulation des Algériens en France. Mais pas question pour lui d'abroger cet accord, cela après le vote la semaine dernière de la résolution du Rassemblement national qui en demande la suppression. Alors que reste-t-il de cet accord? Nous poserons la question à l'historien Gilles Manceron. C'est le rendez-vous international sur le climat, rendez-vous annuel. Il a lieu cette année au Brésil. L'ouverture officielle lundi prochain de la COP30 sur les conséquences du dérèglement climatique dans les pays d'Afrique du Nord. Nous écouterons Kamel Gargouri, spécialiste des questions environnementales, ex-directeur et aujourd'hui professeur à l'Institut de l'Olivier de Sfax en Tunisie. Ils sont sortis de prison mardi dernier après 3 ans et demi de détention. Cécile Kohler et Jacques Paris étaient emprisonnés en Iran. Paris les considérait comme des otages d'État. Le couple d'enseignants est actuellement hébergé à l'ambassade de France à Téhéran en attendant de pouvoir rentrer dans leur pays. Emmanuel Macron a demandé au président iranien leur libération pleine et entière. Le député Éric Botorel n'a pas cessé d'agir auprès des autorités et des associations pour tenter d'obtenir leur libération après donc 3 ans et demi de détention. Éric Botorel.
Il ne vous aura pas échappé que j'étais intervenu il y a quelques mois maintenant lors d'une session des questions au gouvernement pour obtenir du Quai d'Orsay qu'on puisse poursuivre l'État iranien auprès de la Cour internationale de justice. C'est un épisode qui a été un épisode de mise sous pression de l'État iranien, et peut-être certains ont été surpris du renoncement que la France a opéré début de cet automne de la poursuite de la mise en examen devant la Cour internationale de justice de l'État iranien. Et ça fait partie des éléments qui contribuent aujourd'hui à les savoir libérés parmi tant d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas la moindre information, mais c'est la qualité du travail des agents et des fonctionnaires du Quai d'Orsay sous l'autorité du ministre Barrot. Et je sais aussi que le président de la République, à chaque fois qu'il a eu à rencontrer son homologue iranien, n'a jamais renoncé à évoquer le sujet de nos otages d'État et à exiger leur libération. Donc, vous voyez, c'est une somme d'initiatives qui viennent être salué par ce premier acte de libération.
Le député Éric Botorel. Le nouveau visage de New York s'appelle Zohran Mamdani. Le démocrate va devenir le maire de la plus grande ville des États-Unis. Les démocrates retrouvent de la vigueur dans le pays après les élections locales. Jean-Éric Brana, docteur de la Sorbonne en études américaines, spécialiste des États-Unis, revient sur cette victoire. Une victoire qui, souligne-t-il, a une résonance dans le monde entier.
Alors elle a une résonance parce que New York est une ville symbolique, qui est la ville là où on trouve Wall Street, donc toute la puissance financière du monde, et c'est, dit-on, la ville la plus riche du monde. C'est aussi celle qui a été romancée dans les chansons, dans les films, dans les livres, et tout ça fait que New York, la grosse pub, c'est la première ville que l'on traverse quand on arrive aux États-Unis. Pour ça a été le cas pour beaucoup d'immigrants, c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de touristes. Donc évidemment, sa portée symbolique est beaucoup plus grande que pour une autre ville américaine.
Le spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a décrété une nouvelle fête nationale chaque 31 octobre. Ce sera donc un jour férié. Cela après le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Le Conseil l'a décrit comme la solution la plus réalisable pour le territoire disputé. Un vote à l'initiative des États-Unis en charge de ce dossier au Conseil. La résolution a été adoptée par 11 voix pour, aucune contre et 3 abstentions, dont l'Algérie. Alger avait déjà regretté en avril la réaffirmation par Washington de son soutien à Rabat sur le rôle des États-Unis. Emmanuel Dupuis, spécialiste de ce dossier, président de l'IPSE.
Le poids du président américain a été d'autant plus important que dès décembre 2020, il avait reconnu la marocanité du Sahara en annonçant l'ouverture, qui n'a pas été jusqu'à présent opérationnelle, d'un consulat à Darla, dans une des deux provinces du sud marocain. Et bien évidemment, ça a été rappelé par le représentant américain à l'ONU, Mike Waltz, avec l'idée que les États-Unis entendaient développer désormais leur activité économique dans la région, voire même, mais cela reste assez flou à l'heure où nous parlons, la mise en place d'un éventuel plan de paix. C'est comme ça que Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont évoqué l'idée que d'ici 2 mois, les États-Unis proposeraient un plan de paix entre l'Algérie et le Maroc. S'agit-il de la première étape de ce plan étant cette résolution 2797, précisant que la discussion se fait désormais dans le cadre souverain marocain ou autre chose? Pour l'instant, nul ne peut le dire.
Sachant que le roi souligne que le Maroc ne brandit pas ses changements comme un trophée et ne souhaite nullement attiser les antagonismes ou accentuer les divisions. C'est ce qu'il indique. C'est un risque après ce vote?
Il y a ni vainqueur ni vaincu, a-t-il rajouté et rappelé que désormais il fallait trouver une solution politique dans le cadre d'un dialogue proposé par le Maroc, c'est-à-dire celui d'une autonomie politique, économique et sociétale.
Le président de l'IPSE, Emmanuel Dupuis. Le Premier ministre français dit vouloir renégocier au plus vite l'accord de 1968 sur la circulation des Algériens en France, mais pas question pour lui de les abroger. Cela après le vote la semaine dernière de la résolution du Rassemblement national sur la suppression de l'accord franco-algérien, un texte non contraignant, voté avec l'appui des Républicains et d'Horizon. Le Modem et Renaissance ont voté contre. Ces accords régissent encore aujourd'hui une partie du statut des ressortissants algériens de France, notamment en matière de séjour et de travail. L'historien Gilles Manseron, spécialiste de la période coloniale.
Il y a une situation particulière pour les Algériens, qui est due à l'histoire, qui fait par exemple que les conditions d'emploi dans certains domaines, par exemple pour un étudiant qui voudrait avoir des petits boulots, comme on dit, pour payer son séjour, ne sont pas les mêmes que pour d'autres. Il y a quelques dispositions particulières qui relèvent, qui sont la conséquence des accords de 68, des accords bilatéraux entre les deux pays, qui ont été à 3 reprises amendés et qui peuvent l'être de nouveau pour ajuster un certain nombre de choses. Mais il est, à mon avis, absurde de voter dans le cadre d'une résolution de l'Assemblée nationale une décision d'abroger, de mettre fin à ce traité de cette façon-là, puisque c'est un traité entre deux États, que les deux États discutent entre eux des amendements nécessaires.
L'historien spécialiste de la période coloniale, Gilles Manseron. Coup de projecteur à présent sur les défis liés à l'environnement en Afrique du Nord. Cela à l'occasion de la tenue de la conférence des Nations Unies sur le climat au Brésil, précédée d'un sommet ce jeudi et ce vendredi. Elle débute officiellement le 10 novembre, ce lundi. Les dirigeants d'une partie du monde se retrouvent à Belém pour tenter de sauver la lutte en faveur du climat, une lutte menacée par les divisions, mais aussi par les tensions internationales et le retrait des États-Unis. Une 50aine de chefs d'État et de gouvernement a répondu à l'invitation du président brésilien. Nous y revenons avec Kamel Gargouri, professeur à l'Institut de l'Olivier de Sfax en Tunisie.
Aujourd'hui, ce n'est plus réservé au cercle, je dirais, d'initiés du changement climatique, de voir les impacts. Là, on les voit, et c'est le citoyen qui les vit tous les jours, et essentiellement deux facteurs qui sont le stress hydrique et le réchauffement du climat avec des étés de plus en plus longs, de plus en plus secs et avec un déficit hydrique. Les régions arides deviennent plus arides, les régions qui étaient plutôt humides deviennent de plus en plus arides, donc avec un déficit chronique en eau qui pose de sérieux problèmes aux écosystèmes, même au niveau de la vie quotidienne des citoyens avec des coupures d'eau, des restrictions.
Kamel Gargouri, ex-directeur et professeur à l'Institut de l'Olivier de Sfax en Tunisie. Fin de votre Grand Angle Hebdo, une émission que vous pouvez retrouver sur votre site internet radioorient.com, sur les réseaux de votre radio. Excellente suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.